Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Canal Académie met en valeur aujourd'hui Défense de la langue française, une association qui existe depuis 1958. Et vous savez ici même que nous sommes extraordinairement attachés à cette langue française et qu'à travers de nombreux programmes que vous pouvez télécharger en médiathèque, nous nous efforçons justement de montrer en quoi ce combat est honorable et surtout nécessaire. Alors avec deux invités pour en parler, Défense de la langue française, à la fois l'association puis la revue. La revue Défense de la langue française. Avec Guillemette Moraveré, bonjour madame.
Bonjour.
Secrétaire générale de Défense de la langue française, et vous êtes directrice de cette publication qui est très bien faite. On va avoir l'occasion, bien sûr, de commenter tout cela et d'y revenir assez largement. Marceau Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de DLF. D'abord, justement, quand on a Défense de la langue française entre les mains, la première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr la photo de l'Institut, la coupole. Donc on voit tout de suite les affinités qui existent avec notre engagement. Et quels sont les liens qui unissent l'Institut à
dès l'origine de la langue française ? Dès la naissance de l'association, elle a été présidée par le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Alors, elle l'a été, par exemple, pendant 20 ans, par Maurice Genevoix. Elle l'a été par Léon Bérard, elle l'a été par Missler. Et ensuite, quand Maurice Druon est devenu secrétaire perpétuel, il a dit qu'il aurait trop de travail, donc on est allé voir Jean Dutour, et maintenant c'est Jean Dutour qui préside l'association.
Donc c'est un lien un petit peu plus, non pas forcément distant, mais ce n'est plus directement lié à l'Académie en tant que telle, ce n'était pas sous tutelle avant d'ailleurs.
Non, ça n'a jamais, c'est toujours une association indépendante, mais avec des liens très forts avec l'Académie et le souci de répercuter les travaux de l'Académie le plus souvent possible.
Donc Jean Dutour s'en occupe depuis à peu près combien de temps maintenant ?
Depuis 1992, je crois.
Et ça représente pour un académicien une charge importante ?
Quand il est entré, il a dit qu'il ne serait qu'une potiche. Et finalement, il fait beaucoup de choses. Il fait des discours à chaque fois qu'on a des lauréats. Par exemple, pour le prix Richelieu, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Il nous soutient le mieux qu'il peut.
Oui, il signe des courriers importants lorsque nous faisons des actions de fond auprès des parlementaires ou auprès des grands décideurs de ce monde. Donc sa signature a un certain poids quand même. S'il s'implique, c'est que le combat en vaut la peine.
Bien sûr. Alors justement, nous allons y revenir. Mais d'abord sur ce lien avec l'Académie, est-ce que cela comportait des conditions, une façon de voir qui, comment dirais-je, vous obligeait à entrer dans les vues de l'Académie ?
Oui, nous respectons strictement les choix du dictionnaire de l'Académie pour l'orthographe des mots. Nous signalons chaque trimestre l'avancée des travaux. Et en mettant justement dans une page consacrée à l'Académie gardienne de la langue en parlant des emplois recommandés ou déconseillés.
Oui. Donc c'est à la fois bien sûr un point de vue exprimé nettement sur l'usage du français.
J'ajouterais que dans un domaine où l'Académie française est également impliquée dans la terminologie, puisque tous les termes acceptés au journal officiel sont passés d'abord par la bénédiction de l'Académie française. Nous nous attachons également à respecter les conclusions des commissions de terminologie. Nous essayons de promouvoir les termes qui sont créés ou les traductions qui sont données pour les termes étrangers. C'est une règle générale.
Oui.
Nous pourrions polémiquer sans arrêt sur le bien fondé de tel ou tel choix, mais une fois pour toutes, nous avons dit que ce que sortent les commissions de terminologie sont à prendre et à promouvoir.
Et alors, il sort des mots, évidemment, tous les mois, plusieurs dizaines de mots qui sont examinés.
Nous en citons quelques-uns, d'ailleurs, quelquefois dans la revue.
Acception et mots nouveaux, systématiquement.
Les mots aussi qui disparaissent.
Ah bah oui, on fait aussi les mots impérés ou mots perdus, oui.
Ouais.
Alors, on essaye de les faire renaître parfois, parce qu'il y en a qui sont beaux.
Oui, alors là, c'est tout un combat. Est-ce qu'on peut faire renaître un mot qui meurt tranquillement ?
Écoutez, il y a un très bon magazine pour les jeunes qui s'appelle Virgule, et ils font ça aussi, un mot par mois, ils essayent de faire renaître en demandant aux enfants de l'utiliser. C'est une bonne idée.
Dans le cadre de leurs travaux scolaires ou dans...
Non, c'est un magazine.
Un magazine, Virgule.
Pour enfants.
Mais alors, comment utiliser un mot par le biais de l'écrit, de l'oral de...
Les enfants s'engagent à l'utiliser une dizaine de fois, je crois, dans le mois. Et après ça, ils ont un certificat de...
C'est un petit jeu, hein, bien sûr.
Oui, c'est un jeu. Bah,
c'est bien.
1958, alors c'est une date qui compte dans l'histoire de France. Est-ce qu'elle a compté aussi pour la langue française, cette date ?
Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à cette période ou cette.
Est-ce qu'il y a un événement qui justifiait
la création ? Là, je ne sais pas. Il faudra demander au créateur. Il serait bon de citer le nom du.
Oui, c'est ce que je vais essayer de raconter. Oui. En fait, l'association existait sous un autre nom depuis 1952. Elle s'appelait alors le Cercle de presse Richelieu, parce qu'elle avait été créée par un journaliste, justement, ingénieur de formation. Il était centralien. Et qui travaillait pour l'ORTF, en fait. Et ce n'était que des... Paul Camus.
Oui.
Ce n'était que des journalistes qui faisaient partie de ce cercle. Mais ils avaient beaucoup d'amis, des ingénieurs, des avocats, des médecins, qui disaient que dans leur milieu aussi, la culture avait beaucoup diminué au sortir de la guerre et que la langue française était de plus en plus mal employée. Donc au début, l'association était plutôt une lutte pour la beauté du langage et la culture. Et donc, quand ils se sont aperçus qu'ils étaient si nombreux à avoir le même objectif, ils ont abandonné le nom de Cercle de presse Richelieu pour prendre celui de Défense langue française.
Donc, dès les années 50,
52, oui.
Les journalistes se plaignaient déjà de l'emploi, de l'usage, du mauvais usage du français.
Oui.
Mmh. Mmh.
Que dirait-il maintenant, sans vouloir faire du catastrophisme ?
Il pleurerait, je pense. Cela dit, à toute époque, il y a toujours eu des gens pour se plaindre et dire que c'était mieux avant.
Oui. Donc il ne faut pas non plus tomber dans ce piège.
Non, bien sûr. De toute façon, la langue évolue. Il faut bien qu'elle évolue un peu. Et nous essayons qu'elle évolue dans la discipline, dans le respect de l'esprit de la langue française, dans le respect de la culture également. C'est surtout ça. Mais qu'elle change certainement. Nous serions bien peut-être incapables de lire des écrits qui étaient censés être du bon français il y a 500 ans. Donc il faut bien admettre que ça bouge.
C'est toujours cette controverse entre l'usage, doit-il être la référence, ou alors la norme, doit-elle être la référence. Est-ce que vous entrez dans ce débat ?
Je voudrais simplement
rappeler...
Parce que
souvent l'argument que l'on oppose, c'est dire, mais c'est l'usage qui compte, et de toute façon, si vous tentez d'imposer une norme et que la norme n'est pas comprise, ou peu comprise, ou pas du tout employée...
Il faut au moins essayer.
À quoi bon ?
Il faut au moins essayer. Essayer et vérifier que lorsqu'on adopte de nouveaux mots, il n'en existe pas qui sont là à notre disposition et qui ont l'avantage d'être compris et d'avoir été utilisés pendant une longue période et qui seront compris par tout le monde. Quand on relira ces mots dans des textes anciens, on sera capable de lire parce qu'il y a ce danger aussi. Quand on évolue trop vite, on est incapable ensuite de lire et de comprendre des textes qui ont été écrits deux ou trois générations précédentes.
Dans ce sens, il y a le mot « supporter ». Et donc, quand on lit « supporter quelqu'un », c'est plutôt au contraire.
Oui, c'est l'inverse.
L'inverse, c'est retrouver insupportable. Voilà. Alors que maintenant, un supporter, c'est quelqu'un qui soutient quelqu'un. Donc, il y a des contradictions aussi dans les nouveautés qui sont parfois dangereuses.
Alors là, c'est l'influence de l'anglais qui a calqué son interprétation du mot « supporter ».
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, on va en parler d'ailleurs de la façon dont...
Il serait important quand même, dans la présentation de la défense de la langue française, de notre association, de rappeler cette petite...
Ni laxisme, ni purisme.
Voilà, voilà. Rappeler ça, c'est important. Hein.
C'est votre maxime.
Ouais, c'est notre maxime. Hein. Ni purisme, ni laxisme, ou ni laxisme, ni purisme, ça dépend à quel ordre on les donne.
Enfin, ça situe bien l'orientation que vous donnez, quand même.
Nous sommes humbles, hein, nous avons preuve d'humilité, nous avons l'évolution de la langue, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous aimons notre langue, nous ne voulons pas qu'elle soit maltraitée, enfin, ce que nous pensons être la maltraitance. C'est tout, après, on est prêt à écouter tous les spécialistes, à écouter tous ceux qui argumentent dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, on en parle déjà, c'est un avantage, c'est que si on argumente, c'est qu'on parle de la langue française et qu'on s'en préoccupe. Sinon, on est prêt à accepter aussi, venant de l'un ou de l'autre, une certaine liberté de langage ou, au contraire, un peu plus de rigueur.
La question à tous les deux, quel est l'événement dans votre vie, à titre personnel, qui vous a fait chevaucher ce combat pour la langue française, Guillemette Moraveré ?
Moi, c'est mon père était trésorier de l'association. Mon père était ingénieur polytechnicien, directeur des recherches à Gaz de France et donc trésorier de cette association. Et donc, c'est lui qui m'a demandé de venir m'occuper de la revue.
Et au début, vous avez pris ça avec enthousiasme ou bien
Et
vous
au début, j'ai observé, enfin, je recevais, j'étais abonnée pour soutenir mon père depuis de 1981 d'ailleurs. Et donc là, je recevais cette revue. Honnêtement, je ne la lisais que quand il m'annonçait qu'il avait un article dedans. Sinon, je la posais dans un coin en disant quand j'aurai le temps. Et une fois que je lisais l'article de mon père, je lisais aussi tous les autres parce que finalement, c'était très amusant tout ça. Et quand je suis revenue en France, après donc 10 ans en Belgique, je me suis lancée dans la revue. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous finissez par vous passionner, c'est le cas.
Et Marceau Deschamps ?
Bien, moi, j'ai une formation technique et j'étais cadre dans une entreprise française où je constatais que nous utilisions beaucoup de mots anglais alors que nous pouvions très bien utiliser des mots français existants. Il y a un certain snobisme. Moi-même, j'en ai usé de ce snobisme, hein, malheureusement, usé et abusé à une époque. On a l'impression d'appartenir aux gens qui connaissent, n'est-ce pas, ça fait très bien. Mais après, ça m'a agacé profondément. Donc, je recherchais autour de moi des gens qui avaient les mêmes réactions et je suis tombé un jour sur Défense en langue française simplement par Minitel. J'ai tapé Défense en français, je suis tombé sur l'association. Parce que, donc, encore une fois, j'avais le sentiment, bien que nous n'étions pas de formation littéraire, universitaire, j'ai l'impression qu'on maltraitait notre langue d'une manière vraiment abusive. Et j'ai donc rejoint l'association pour mener ce combat vis-à-vis des termes, l'invasion des termes étrangers.
Votre parcours est peut-être un peu insolite parce que vous ne venez pas précisément du monde de la littérature,
non.
De celui des écrivains. Et c'est peut-être une force pour l'association d'avoir dans ses rangs des personnes qui connaissent le monde technique, le monde de l'entreprise.
Oui, d'ailleurs, Guimet l'a pas cité, mais son père était polytechnicien. C'était un homme du technique, c'était un universitaire. Et il y a pas mal d'ingénieurs dans notre association.
Au comité de lecture, il y en a deux.
Deux ingénieurs.
Deux ingénieurs, sur 10 personnes.
Ce qui prouve que notre combat pour dire que le français est une langue qui peut également s'appliquer à la technique, ce n'est pas une simple affirmation, elle est aussi le fruit d'expériences menées par des gens, des ingénieurs qui sont plongés dans la technique tous les jours, qui ont vécu les techniques tous les jours et qui savent qu'on peut exprimer n'importe quel concept technique avec la langue française. Et qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les termes américains qui nous arrivent.
Dans certains secteurs, on a capitulé quand même depuis longtemps, la IFI ou l'informatique.
Ouais.
Le vocabulaire de l'informatique sort régulièrement de nouveaux termes dans les commissions de terminologie. Hein, donc, il y a des efforts faits.
Oui, d'ailleurs vous-même, vous ne dites plus computer, vous dites bien ordinateur. On ne dit plus software, on dit bien logiciel. Vous voyez qu'il y a des combats qu'on peut gagner quand même, quelques-uns, et ce n'est pas fini.
Et ces combats ont été gagnés à la force du poignet des militants de DLF, notamment ?
Non.
Pas toujours. Ordinateur, c'est l'entreprise IBM qui l'a trouvé elle-même.
Oui, c'est de même, oui. Et je crois que c'est la même chose pour logiciel, à la place de software. Mais nous participons, nous avons peut-être quelques combats à mettre à notre tableau d'honneur, mais nous n'avons pas, nous ne pouvons pas revendiquer tous les succès de la terminologie.
Non, mais de nombreux de nos membres font partie des commissions de terminologie.
C'est vrai. En tout cas, nous sommes des alliés à ceux qui travaillent pour enrichir la langue française avec de la terminologie.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle des combats, puisque vous parlez un peu de tableau d'honneur ou de tableau de chasse. Quelles sont les victoires que vous avez remportées depuis, peut-être pas depuis 58, mais si on peut déjà pour un peu vous présenter votre action, savoir quels sont les points sur lesquels vous insistez particulièrement et qui vous font gagner des batailles.
Oui.
Ce que je pense, c'est qu'on peut pas dire voilà telle victoire, mais je pense que si on avait laissé faire les choses, on serait beaucoup plus anglicisé qu'on ne l'est maintenant. Je sais par exemple que les Allemands sont terriblement anglicisés et que je suis persuadée que si on n'avait pas mené ce combat, on serait beaucoup plus mal.
Alors les Français ne s'en rendent pas forcément compte puisque ce sont des victoires un peu en creux, c'est quelque chose qu'ils ont évité.
Voilà, c'est notre problème aussi, c'est de faire connaître notre combat et le faire apprécier sa juste valeur, de se faire apprécier comme un combat des concitoyens, un combat de tous les Français. C'est pas un combat d'une élite, c'est pas un combat de quelques rats de bibliothèque ou de vieux savants chenus. Nous sommes véritablement plongés dans la France de tous les jours et notre combat, c'est celui de tous les Français de tous les jours. C'est important. Alors, j'en reviens quand même à ce que les petits succès ou les victoires que nous avons pu avoir. Nous avons mis en place, enfin quelques adhérents, quelques militants actifs et dynamiques, ont mis en place un observatoire, le mot est un peu grand, disons un relevé des fautes qui sont faites à la radio, dans les médias, dans la télévision en particulier. Et c'est pas pour les punir, hein, ce n'est pas pour sévir, hein, pour les sanctionner, mais simplement pour leur dire vous avez utilisé là un mot qui n'est pas bien adapté, vous avez fait une faute de français qu'on retrouve trop souvent, vous voyez si vous ne pouvez pas faire mieux. Donc on fait un relevé tous les mois, c'est une personne qui s'occupe de ça, Madame Arlette Rondebouet, qui envoie ce relevé.
Mais alors elle écoute tous les médias ?
Non, pas elle, c'est pas elle, c'est une poignée d'adhérents, spontanément, sans qu'elle soit très organisée, c'est au hasard de leurs écoutes, hein, ou de regarde sur la télévision, ils relèvent les fautes, telle heure, telle date, j'ai entendu monsieur ou mademoiselle ou madame un tel dire telle chose qui me semble pas correcte, et on le relève et on le renvoie. Et nous avons pu observer qu'il y avait des changements de pratique par les journalistes. Parce que c'est envoyé aux directions des stations
et au CSA.
Et au CSA, c'est envoyé au CSA, qui est à travers sa revue.
Comment ça s'appelle ? C'est la lettre du CSA.
La lettre du CSA, voilà. Diffuse, reprend quelques fautes également. Et ça a un impact. C'est un impact sur les journalistes qui disent après tout, tiens, j'ai fait cette faute. Oui, je vais vérifier dans le dictionnaire. Ah ben, ils ont raison. Donc, je vais corriger.
Alors, j'imagine, Marceau Deschamps et Guillemette Moravéré, que cela suppose quand même une certaine organisation militante. Parce qu'il faut une régularité dans l'écoute, quand même.
Bien sûr, oui.
C'est un observatoire qui observe dans la durée.
Oui, oui bien sûr. Ça fonctionne depuis, je ne sais pas, ça doit fonctionner depuis presque une dizaine d'années. Hein.
Et alors, il y a un rapport à l'association. Comment ça se passe après ? C'est l'observatoire qui prend directement contact avec le CSA et les journalistes ?
Oui, directement, oui. Pas les journalistes, avec les directions des stations.
Les directions.
Oui. Alors, il nous arrive de faire des actions aussi, mais là, à titre individuel, de militants, au titre du conseil d'administration de DLF, d'actions plus particulières à l'intention de journalistes. Ça arrive aussi, ça. Mais une règle que nous essayons de suivre régulièrement et que nous rappelons sans arrêt à nos adhérents, c'est d'être courtois. La courtoisie doit faire partie de nos règles de fonctionnement. Hein. Ne battons pas quand même avec le glaive à la main. Hein. Nous essayons d'avoir des pratiques.
Personne n'est à l'abri d'une erreur.
Nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri d'erreur. je crains même qu'à la fin de cette émission, un de mes adhérents qui fait l'habitude de faire cette vigie en décèle quelques-unes.
On vous retrouve dans quelques instants, Guillemette Moravéré et Marceau Deschamps, pour la suite justement de cette présentation de DLF, DLF l'association et DLF aussi la revue. A tout de suite.
Un nouvel espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre. Un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Éclairage avec Guillemette Morin-Véré, qui est secrétaire générale et directrice de la publication de DLF, la revue Défense de la langue française, et Marceau Deschamps, qui est vice-président de cette même association, créée en 1958 par Paul Camus, qui compte 3200 adhérents et dont le combat est bien sûr la défense de la langue française, mais une défense qui se résume sous cette maxime qui est la vôtre, « ni laxisme ni purisme ». On a évoqué jusqu'à présent un peu ce qui vous avait incité vous-même à entrer dans ce type de combat, ce type d'engagement. On a évoqué un petit peu aussi la revue DLF. Alors oui, tiens, justement, Marceau Deschamps, puisque je faisais une annotation en notant le temps qui nous restait à parler, et je n'ai pas noté seconde, mais j'ai fait cette sorte d'apostrophe juste à côté du chiffre, et là, c'est une version incorrecte.
Oui, ce que vous avez noté là, c'est 19 secondes d'angle. 19 minutes d'angle, pardon. Puisque
minute, et puis alors minute,
la seconde, c'est deux traits. En réalité, bon, minute, c'est MN, et puis seconde, le symbole, c'est petit s. Mais ça, c'est le technicien qui parle. Mais c'est important également hein, de marquer bien de bien marquer les symboles, de bien marquer les points séparateurs. J'avais une anecdote comme ça. J'avais, quand je travaillais, on avait reçu de la marchandise et ça venait d'un état anglo-saxon et ils avaient indiqué 5,300 kilos. En réalité, il s'agissait de 5300 kilos, puisque les anglo-saxons marquent le mille, le millier, le séparateur des mille, par une virgule. Alors que chez nous, c'est un, c'est une espace. On dit une, puisqu'on doit dire une espace.
Oui, c'est en train de se perdre, ça, mais bon.
Une espace.
Oui. Une espace, c'est dans les caractères d'imprimerie,
ça,
oui.
Ça a son importance, ça peut avoir son importance.
Donc ça peut évidemment conduire à des confusions terribles.
Ça peut conduire, mais vous voyez la différence entre 5 kg 300 et puis 5300 kg.
Cela dit, personne aujourd'hui écrit à l'anglaise, hein, en tout cas en France, 5,300. Si on écrit ?
Ah si, ça arrive.
Si quand même ?
Oui, dans les textes automatiques, on le trouve.
Le diable est dans les détails alors ?
Oui, aussi. Mais ça, c'est important, parce que quand on est encore une fois dans la technique, ça a beaucoup d'importance.
Oui, parce que tout aujourd'hui est extrêmement défini par les normes et que par conséquent, il faut être tout à fait vigilant.
Mais cela étant, je ne vous aurais pas puni pour ça. Hein,
mais vous pouviez. Hein. Non, mais c'est légitime.
Encore
justement.
Une fois, ni purisme, ni laxisme.
Il suffit de le savoir.
Oui.
Et
oui,
la plupart du temps.
Voilà. Là, c'est vrai que vous soulevez quelque chose d'important. Le fait simplement d'indiquer aux gens qu'ils se trompent ou qu'ils font une erreur ou que c'est la norme, c'est ça, en tout cas ce qui est préférable, c'est ça, ça suffit pour modifier les comportements. Ça suffit le plus souvent. Et ça, on l'observe dans beaucoup d'autres domaines, l'application de la loi Toubon. Par exemple, il suffit de rappeler aux gens qui ne l'appliquent pas qu'elle existe. Et il se trouve que derrière, eh bien, il modifie leur comportement, il modifie leur présentation, par exemple.
Oui, ça ne nécessite pas d'efforts particuliers. Il suffit vraiment
simplement de l'information,
de le savoir, tout simplement.
Informer, oui.
Là, on mesure qu'aujourd'hui, dans la société de l'information, ce n'est pas acquis. Enfin, il faut faire un effort quand même supplémentaire pour se faire entendre.
Oui.
De ce point de vue-là.
Oui.
Alors, j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, peut-être avec vous, Guillemette Moinveret, sur les. Alors, il y a les actions militantes, puis il y a aussi un certain nombre d'initiatives que vous prenez dans le domaine, j'allais dire, des récompenses à ceux qui se démènent sur ce terrain. Il y a le prix Richelieu, il y a le plumier d'or, il y a la plume d'or, il y a le concours scolaire francophone dans un certain nombre de pays choisis, on va en parler. La carpette anglaise aussi. Tout cela, ça fait beaucoup de choses et c'est sous l'égide de DLF.
Alors, pas tous.
Vous êtes partie prenante quand même.
La carpette anglaise est faite avec un collectif d'associations et avec un jury présidé par Philippe de Saint-Robert, auquel nous convions des écrivains ou des personnalités. Et il s'agit là de décerner. Ça plaît beaucoup aux journalistes.
Hein, c'est très amusant et ça a beaucoup d'écho médiatique.
Et donc de décerner un prix d'incivilité à l'une de nos élites qui défend systématiquement l'anglais au détriment du français.
Donc le journal Le Monde avait été récompensé, je crois.
Enfin, oui, Jean-Marie Colombani, en fait, puisqu'il avait édité toutes les semaines des pages en anglais pour
crois qu'il continue d'ailleurs.
Je crois qu'il a recommencé.
Moi, j'ai décidé de l'acheter depuis cette époque, alors je ne sais plus s'il continue.
Donc sanctionné pour ces pages exclusivement en anglais.
Voilà, parce qu'il y avait pas de, il y aurait eu une réciprocité et c'était le New York Times. Le New York Times aurait publié des pages en français, on aurait dit
applaudi.
Bravo.
Ouais, très bien.
Bravo. Mais donc, ce n'était pas le cas. On avait d'abord protesté, évidemment, avant de décerner notre prix. On s'était ligués. Et ensuite, bon, il y en a des tas d'hommes. Alain Richard, je crois, le ministre de la Défense, l'avait eu parce qu'il avait créé une armée française qui n'avait pas un seul anglais à l'intérieur, et européenne, une armée européenne à qui on obligeait de parler en anglais. On trouvait ça quand même assez fort, étant donné qu'il n'y avait aucun anglophone dans l'armée en question. Les autres prix, enfin plutôt les autres, ce sont des concours. Donc il y a le concours du plumier d'or qui est destiné aux élèves de 4e des collèges en France et dans les lycées français de l'étranger. On a, cette année, je crois que tu as dit 13 000 candidats.
Alors c'est quand même considérable.
C'est beaucoup de travail, oui. Et donc ils sont récompensés, c'est avec le soutien de la Marine nationale. Donc, ils sont récompensés dans une réception au ministère de la Marine, place de la Concorde, place Royale, avenue Royale. Et les 10 premiers sont invités sur un bâtiment de la Marine pendant une semaine ou 4 jours, selon les possibilités des marins.
Expérience formidable, merveilleuse pour ces enfants.
Il faut revenir justement quand même sur ce plumier d'or, parce que qui a eu l'initiative de ce concours ?
Eh bien, j'en avais parlé à la délégation générale à la langue française il y a longtemps, en leur demandant s'ils nous aideraient à créer ce concours. Elle me dit non, il faudrait que vous voyiez avec l'éducation nationale. Est arrivé par chance au sein de l'association Françoise de Oliveira, qui était l'ancienne directrice du lycée français de Belgique, de Bruxelles. Et qui, elle, s'est lancée dans le concours. On a d'abord fait tester avec quelques classes, et puis c'est devenu de plus en plus important. Donc c'est Françoise de Oliveira, qui est vice-présidente de l'association aussi.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce concours s'étende, prenne encore de l'ampleur que...
C'est ce qu'on souhaite.
Mais vous recevez un bon accueil de la part de l'Éducation nationale, par exemple ?
On est obligé d'abord. On ne peut pas organiser un concours sans avoir l'autorisation de toutes les académies locales. Et d'abord, l'Académie de Paris, l'Académie de chaque région. Oui.
Chaque région.
On n'a pas le droit d'organiser un concours dans les écoles sans l'autorisation.
Mais ils vous ont dit oui, bon, d'accord, on accepte. Ou alors ils vous ont dit oui, c'est très très bien.
Ils nous soutiennent et c'est eux-mêmes maintenant qui envoient qui préviennent les écoles. Donc ça, non, c'est obligatoire, mais ils le font volontiers.
Le plumier d'or, pour l'obtenir, il y a un certain nombre d'épreuves.
Voilà, c'est des épreuves de langue française, parce qu'on n'est pas très dicté. Enfin, s'il y a d'autres adhérents qui organisent des dictées, comme Jean-Pierre Collignon d'ailleurs, qui est un de nos administrateurs. Mais là, il s'agit de poser des questions de langue française, de savoir mettre la ponctuation, savoir conjuguer un verbe, savoir composer aussi une petite rédaction. Il y a des tests, des petites questions de culture générale aussi. Enfin, c'est tout à fait à la portée d'un enfant de quatrième. Mais on s'aperçoit qu'on a
classe de quatrième.
Oui, parce que c'est l'année où ils n'ont pas d'examen en fin de parcours, comme en troisième, ils ont le brevet. Et ils sont quand même suffisamment grands pour comprendre ce que c'est que ce que la langue française. Et surtout, avant qu'on les force à faire des mathématiques à outrance, et qu'ils en oublient que savoir parler, c'est aussi essentiel pour faire des mathématiques que pour le reste. Ou toutes les autres matières.
Certainement, mais j'en atteste.
Ainsi que Laurent Laforgue, notre médaille Fields, a pu souligner justement tout l'intérêt du français, de posséder le français pour maîtriser les mathématiques.
Voilà.
Ses élèves... Ils se portent volontairement, alors ils se portent candidats.
C'est la classe, c'est le professeur qui accepte.
C'est le professeur.
Oui, c'est vraiment par les professeurs que ça se passe, oui. D'abord le directeur de l'école, de l'établissement, et ensuite ses professeurs. Ils ne sont pas tous obligés de le faire, mais là, très souvent, quand l'établissement dit oui, c'est toute l'école. Oui.
Et l'établissement, il voit son intérêt.
Ah ben, ils sont très contents d'estimer, enfin de voir un peu le niveau entre leurs élèves et les autres, puisque quand vous avez 10 à 13 000 candidats, c'est un peu comme un concours général. Savoir si votre classe est au niveau, si vous avez des bons éléments dans votre classe.
Qui rédige les épreuves ?
C'est une équipe de défense de la langue française composée d'une dizaine de personnes qui sont professeurs de chimie, professeurs de lettres, aussi anciens ingénieurs, professeurs de langue, oui. Parce que nous avons, il faut le savoir, c'est amusant, au sein de Défense de langue française, nous avons énormément de professeurs d'anglais, d'allemand, d'espagnol. C'est-à-dire que les professeurs de langue se rendent parfaitement compte de l'évolution de la langue et du danger à mélanger les langues, d'ailleurs.
Oui, et ils se rendent compte également qu'on ne peut bien maîtriser une langue étrangère que dans la mesure où on maîtrise sa propre langue. Il faut une référence. Il faut connaître sa langue. Les deux s'enrichissent d'ailleurs, remarquez. On maîtrise bien aussi la langue française, on apprécie mieux la langue française quand on parle aussi quelques langues étrangères ou une ou deux langues étrangères. Ça permet aussi de faire des comparaisons.
Oui, parce que beaucoup de nos adhérents, dont Marceau d'ailleurs, Marceau parle à la fois arabe, roumain et quoi ?
Je baragouine.
Et donc, vous êtes modeste.
Donc très souvent, la plupart de nos adhérents...
aussi, bien sûr, je baragouine l'anglais.
La plupart de nos adhérents sont en fait multilingues, en fait. Ils aiment les langues.
Mais de toute façon, la défense du français donc, va de pair avec la défense du multilinguisme.
Oui,
indispensable.
Ça a toujours été d'ailleurs l'angle d'attaque des associations de défense du français.
Je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au début, ils étaient plus dans la beauté de la langue française elle-même. Et puis, c'est au fur et à mesure de l'évolution de ce qui se passe dans notre pays qu'on a vu arriver le danger d'une une américanisation un petit peu forcenée,
oui,
de la part des Français eux-mêmes, hein, parce que c'est les premiers responsables.
C'est un peu stratégique aussi. On ne peut pas dire on défend la langue française seule contre l'américain, parce que c'est bien cela qu'il s'agit, en particulier pour les menaces de langue étrangère. On peut pas le faire, nous ne pouvons pas le faire seul dans les enceintes internationales ou européennes. Il faut que nous ayons des alliances avec d'autres notre langue.
À l'échelle européenne, justement, vous arrivez à porter votre
combat. On est associé à d'autres associations, comme la Sodilite, qui est une association italienne, la Verein der Sprache, une association allemande. Et très souvent, ces associations sont favorables à aux Français, oui.
Donc, il y a une sorte d'union sacrée, de fédération de toutes les,
oui,
de toutes les langues.
Oui, on voudrait bien l'élargir d'ailleurs.
Parce que on crée bien dans sa propre langue. Et le jour où l'italien qui disparaîtrait, mais ce serait désastreux.
Et ça serait désastreux pour eux, bien sûr, mais
pour l'humanité, ça serait oui. C'est la plus belle langue du monde en plus, ce serait dommage.
Le plumier d'or s'adresse donc aux classes de 4e. La plume d'or ?
La plume d'or s'adresse à tous les élèves étrangers des alliances françaises dans le monde entier. Et là, on a à peu près, je crois que c'est 3000 candidats chaque année. Et nous recevons le lauréat pendant une semaine à Paris. Et là, nous avons le soutien du Sénat, en la personne du sénateur André Ferrand, qui est le représentant des Français de l'étranger.
Non, là encore, il faut saluer l'action de notre vice-présidente Françoise d'Oliveira, qui organise toutes ces affaires-là et qui est vraiment la clé de voûte de cette grande organisation.
En quoi l'épreuve consiste-t-elle pour la Plume d'Or ?
C'est la même chose. C'est un peu le même genre de concours, c'est-à-dire des épreuves de culture générale, de grammaire, de syntaxe. Et chaque concours se termine par une rédaction. Moi, j'appelle ça une rédaction. Je crois qu'ils appellent ça expression écrite maintenant. Et donc, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la publication d'un petit ouvrage l'année dernière qui s'appelle « L'écume des mots ».
Qui recueille les rédactions des lauréats.
Les meilleures rédactions. Oui. Et l'année dernière, nous avons reçu...
Avec des mots imposés ou pas, les rédactions ? Non, c'est simplement
un thème.
Oui, je vois que vous faites allusion à la semaine de langue française.
La semaine de langue française qui reprend une dizaine de mots. Oui. Enfin, qui impose
nous associons un peu à cette... Enfin, un peu, même beaucoup, avec la semaine de langue française, mais nous ne faisons pas de rédaction sur ce thème des 10 mots.
Non, on leur demande par contre, dans l'épreuve de français, de les insérer. Dans un texte, par exemple.
Donc, l'écume des mots, délices de la langue française, c'est édité par vos soins et c'est disponible auprès du Sénat également.
On a eu le soutien du Sénat.
Vous avez eu le soutien du Sénat, mais c'est auprès de DLF.
Auprès de DLF qu'il faut le commander.
Il faut le commander.
Oui.
10
Plumier
euros.
D'or, 10 euros. Plumier d'or, plume d'or. Ensuite, allez, le concours scolaire francophone.
Oui, il a été créé l'année dernière avec seulement...
Ça fait beaucoup de choses, par an.
Oui, alors ça, c'est il émane du cercle
Philippe
Saint-Gor, qui est présidé par Madame Colombe Anouilh d'Harcourt, qui était en fait une camarade de classe de Philippe Saint-Gor, le fils de Léopold Sédar Saint-Gor, qui a été tué dans un accident de voiture à 20 ans. Donc c'est en souvenir de cette camaraderie qu'elle a créé ce concours au moment de l'année Saint-Gor. Avec d'abord, il y avait l'année dernière 5 pays, 4 pays, et cette année 8 pays qui sont, je les ai notés.
C'est DLF qui les choisit ou bien ça fait l'objet
d'un...
Au sein du cercle, elles sont obligées de savoir, enfin elles sont une dizaine de personnes, elles prennent des pays sur lesquels elles pourront assurer un suivi. C'est-à-dire qu'elles ont des contacts avec une personnalité du pays ou quelque chose comme ça. Et donc cette année,
sur les pays d'Afrique la plupart du temps ou...
Pays d'Afrique. Alors la Guinée équatoriale, il faut savoir que la Guinée équatoriale était hispanophone, mais qu'elle a décidé de devenir francophone pour être en harmonie avec autres pays voisins. Haïti, le Liban, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Sénégal évidemment, puisque le Sénégal c'est le pays de Saint-Gor. Et le Togo. Voilà. Donc ça, c'est...
Alors, ces
8
pays sont mis
année.
En concurrence ou comment ça
Alors,
se passe
dans chaque pays, les écoles demandent aux élèves des écoles de poursuivre une histoire commencée par un écrivain. L'année dernière, c'était Eric Orsena qui avait commencé une histoire de mouette absolument adorable et de chevalier harlequin. Et cette année, c'est Fatou Diom, l'écrivain sénégalais, justement, qui a commencé une histoire d'une petite fille qui est très, très jolie. Et donc, les enfants doivent poursuivre l'histoire. Elle leur donne un petit
On imagine
synopsis.
Une suite, mais alors, avec une contrainte, j'imagine.
Alors, il n'y a pas de contrainte, mais comme c'est des petits enfants. Non.
Non, même pas
Non, je ne crois pas. Mais
vous laissez libre cours à l'inspiration.
Oui, et on leur demande aussi de faire des dessins qui accompagnent le... Parce que il y a plusieurs écoles qui participent chaque pays, dans chacun des 8 pays, et il y aura toujours une école récompensée par pays. Donc l'année dernière, il y avait 4 pays, 4 textes récompensés, qui ont été récompensés par la publication dans un petit volume. C'est très joli.
Ouais, hein, très joli.
Donc cette année, ça sera 8 volumes qui seront. Chaque pays aura sa récompense, si vous voulez. Mais ça sera un coffret de 8 livres.
Il faut ajouter les textes français sont traduits dans la langue locale.
Alors, sauf pour le Sénégal, puisqu'il y a trop de langues différentes. Donc,
c'est une illustration de notre volonté de promouvoir aussi le plurilinguisme.
Donc, le Plumier d'or, la Plume d'or, le concours scolaire francophone, le prix Richelieu.
Alors, le prix Richelieu est décerné chaque année à un journaliste, soit de la radio. Une année, c'est la radio, une année, c'est la télévision et une année, la presse écrite. Cette année, c'était la radio. Et nous venons d'élire Frédéric Lodéon, qui, sur France Inter, a une émission qui s'appelle Carrefour de Lodéon, où, avec un langage parfaitement châtié et très fleuri et amusant, il fait aimer la musique classique à tout le monde.
Mmh. Encore une fois, vous voyez, là, ce n'est pas forcément dans le cadre de la défense de la langue française en tant que élément fondamental de notre combat, mais aussi l'ensemble de la culture qui est défendue par notre association, mais toujours avec le souci de mettre en valeur la langue française.
La sélection a été rude.
Ah, il y avait pas mal. Oui, cette année, il y avait Nicolas Delorme et son émission avec Pascal Lafitte-Certa le dimanche, qui, alors, elle, pour le coup, a une émission proprement langue française. Il y avait aussi Nicolas Demorand, pour le journaliste du matutinal de France Inter, puisqu'il fait le 7-9-30. C'était les trois qui ont été vraiment en lice. Oui. Il y en avait plus, mais...
Il y a eu... pas ballotage, mais il y a eu... C'était serré. Ouais.
Le prix Richelieu, alors son principe, enfin, répond à un objet particulier, c'est celui de valoriser le français dans les médias.
C'est une manière, on espère ainsi toucher la presse et qu'elle parle de nous. Non pas nous, Association Défense Langue Française, mais nous, sujets. La langue française est essentielle pour notre pays, pour son économie, pour sa culture, pour ses recherches. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'atteindre, en faisant ce prix, on essaye d'atteindre les journalistes. Alors, on l'a créé en 1992, donc ça fait quand même ça fait quoi, 15 ans, 14 ans
Des journalistes renommés l'ont déjà reçu.
Oui,
alors
le premier, c'était William Lémergie, il y a eu Jean-Pierre Collignon, il y a eu Claire Chazal, il y a eu celui de TF1 aussi, Jean-Claude Narcy, Jean Lebrun. Il y en a un qui est mort.
On a eu un journaliste belge également.
Michel Theis, qui publiait une revue hebdomadaire, c'est très triste cette histoire d'ailleurs, qui s'appelait L'Européenne de Bruxelles. C'était le seul journal français qui était à la Commission européenne et qui dépendait avant des dernières nouvelles d'Alsace. Quand les dernières nouvelles d'Alsace ont coupé leurs subsides, ils sont tenus un an et puis ça... Donc maintenant, la Commission européenne n'a plus que des journaux en anglais. C'est quand même terrible.
Avec une pression des lobbies anglo-saxons qui est extrêmement forte au détriment du français. C'est, j'imagine, là aussi, un terrain sur lequel vous devez pas mal vous battre, Marceau Deschamps.
Oui, certainement. Mais nos moyens d'action sont relativement limités, si ce n'est que nous pouvons alerter nos parlementaires, nous pouvons écrire aussi aux commissaires. Toujours dans nos manifestations en France, rappeler rappeler cette menace qui pèse sur la présence de la langue française au sein de la Commission et dans tous les services européens.
Parce que la Commission européenne a déjà fait son choix clairement pour l'anglais la vie pratique.
Non, c'est un phénomène naturel. C'est comme il n'y a pas eu de décision politique. Il y a une pente naturelle de la facilité qui fait que les fonctionnaires sur place se disent après tout, s'il n'y a qu'une seule langue, c'est plus pratique, ça évite de la traduction. Ce n'est pas concerté. À mon avis, ce n'est pas concerté, bien que certains l'affirment. Je ne pense pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu de décision, de véritablement prise de décision politique.
L'un des membres de votre conseil d'administration, je crois, Hervé L'Avenir de Buffon, préconise que le français devienne langue de l'Europe.
Oui, on peut rêver.
Non, mais il s'appuie sur ce qui était au départ, c'est-à-dire quand l'Union européenne était créée, la Commission européenne a été créée, c'était la langue française et avait totalement droit de cité. C'est quand l'Angleterre, la Grande-Bretagne, est arrivée au sein de l'Europe que tout a basculé. Et au fur et à mesure des pays entrants, ça augmente, d'autant plus qu'effectivement, quand même, vous le disiez, il a été demandé aux pays qui voulaient entrer d'envoyer des anglophones et de répondre en anglais aux questionnaires.
Au départ, l'Europe est une idée francophone, quand même. Des égards.
Française, oui, puisque.
Francophone, au moins, enfin, très. Oui, oui. Francophile, plutôt.
Oui, francophile, oui.
Assez francophile.
Et Otto de Habsbourg, qui fait partie d'ailleurs de l'association d'Hervé L'Avenir de Buffon, est donc allemand, et voulait absolument que ce soit la langue française, que ce soit la langue de l'Europe. Donc il y a encore des gens qui y croient. Mais ça devient de plus en plus difficile, je pense.
J'aimerais à présent que l'on revienne, si vous le voulez bien, sur, ou qu'on en vienne plutôt à au combat d'actualité. À travers votre revue, quels sont les... Peut-être d'abord un mot, alors je ne sais pas par quoi vous voulez attaquer, mais on évoquait tout à l'heure le protocole de Londres,
oui.
Et la question des brevets. Mmh. C'est peut-être un aspect un peu technique du combat pour la langue française, mais peut-être que Marceau Deschamps peut y venir. Ça peut servir d'accroche, si je puis dire, à d'autres thématiques d'actualité.
Oui, en résumé, donc le protocole de Londres est un accord qui avait été signé pour tenter d'adopter une réglementation, enfin une présentation linguistique des dépôts de brevets. Les dépôts de brevets, donc, qui semblent poser des problèmes chez nous. Enfin, c'est du moins ce qu'affirment les syndicats patronaux, en ce sens que ça coûterait trop cher, et trop cher pour la traduction. Puisqu'un brevet est fait dans les différents pays, il faut bien sûr qu'il soit traduit dans les langues. Il faut bien que les gens qui utilisent ce brevet dans un pays puissent le lire, le comprendre. Et il avait donc été dit dans ce protocole de Londres, qui a été signé, mais qui n'est pas encore ratifié pour être applicable. Hein. Et c'est bien au niveau de la ratification que nous battons. Donc dans ce protocole, il était dit que les brevets pourraient être déposés. Les brevets européens. Ça pourrait être déposé dans une des trois langues, anglais, allemand, français. Une des trois seulement. Ils seraient donc enregistrables et applicables.
Et au lieu des trois langues.
Non, au lieu de toutes les langues utilisables dans chacun des pays.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un pays de l'Union européenne, l'Italie ou l'Espagne, s'il voit arriver un brevet écrit en français ou en allemand, elle doit l'accepter, elle doit dire il est porteur de droit, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus pour dire vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous n'avez pas le droit de reprendre ce procédé sans nous payer une redevance puisque nous avons déjà inventé ce concept ou ce processus industriel. La seule chose qui était demandée, en plus de ce texte définissant le brevet, c'était ce qu'on appelle les revendications. Alors les revendications, c'est un résumé du brevet qui, je ne suis pas un spécialiste des brevets, hein, mais qui résume en quelque sorte le contenu et le domaine d'application de cette découverte, de ce processus, ce procédé. Et il doit être traduit il sera traduit systématiquement dans les trois langues. Mais il ne comporte, ce n'est qu'un résumé, ce n'est pas le total du texte. C'est-à-dire que quand même, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, pour aller rentrer vraiment, pour savoir ce que contient cette invention, ce qu'elle peut apporter, ce résumé est insuffisant. Il faut quand même rentrer dans le texte. Et le jour où il y a un conflit, si par exemple on a chez nous un texte en allemand ou en anglais, s'il y a un conflit, il faudra bien le traduire. Or, on dit que c'est porteur de droit, donc normalement ça peut être jugé à partir du texte en langue étrangère. Alors, le danger, c'est que ce que nous pensons qui risque d'arriver, c'est que les grandes entreprises françaises, puisque de toute façon, pour que leur brevet soit applicable aux États-Unis ou au Japon, il faut qu'il soit traduit en anglais. Et comme ils ont la possibilité de le traduire, de le diffuser, soit en anglais, en allemand ou en français, ils vont tout de suite
choisir l'anglais.
Choisir l'anglais, c'est-à-dire qu'à terme...
C'est déjà actuellement comme ça. Ils l'écrivent déjà en anglais, pour le moment. Les grandes entreprises rédigent leurs brevets en anglais. Mais pour le moment, ils sont obligés de les traduire en français. Et cette étape-là sera éliminée à partir du moment où le protocole sera signé.
Et on considérera donc que dans toute l'Union européenne, l'anglais aura force de
donc
loi.
Donc les tenants du protocole de Londres, qui sont tout à fait des gens du MEDEF, osent affirmer que ça défend la langue française, puisque le français était une des trois langues des brevets. Mais ils oublient totalement, ou font semblant d'oublier, que dès maintenant, déjà, les brevets sont rédigés en anglais. Donc
c'est une façon évidemment d'exclure le français du champ
des sciences.
Ouais. Champ des découvertes, donc perte de terminologie. Tous ces domaines seront bien sûr définis, ces nouveaux termes seront créés certainement en anglais. D'autre part, nous posons la question, comment seront traiter les litiges et qui les traitera, quels tribunaux, quels avocats. Est-ce que ce n'est pas ouvrir la porte toute grande à aux avocats anglo-saxons qui forcément seront, même si un Français connaît bien l'anglais, ils seront quand même beaucoup plus forts que nos avocats français dans ce domaine de les égèdes d'un texte en anglais.
Le protocole de Londres n'est pas ratifié.
Non.
Quels sont les moyens d'action que vous pouvez déployer pour empêcher que ce protocole soit ratifié dans l'État?
C'est une action de militant, c'est-à-dire sans arrêt pas aider ceux qui militent également, en particulier les traducteurs, hein, qui sont de leur profession, qui est menacée. Hein. Et intervenir auprès des parlementaires, ouvrir les consciences, montrer où est le danger, apporter un autre son de cloche que celui du MEDEF.
Est-ce que les parlementaires sont sensibles au moins à cette démarche?
Oui, certainement.
Ça,
nous comptons et spontanément, il y a un certain nombre de sénateurs et de députés qui ont vu le danger de ce protocole de Londres et qui y sont opposés. Et ça a posé des problèmes aussi, ce n'est pas constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a tranché d'une manière qui ne nous convient pas.
Pour ça qu'il a eu la carpette cette année d'ailleurs.
Oui, c'est lui qui a obtenu le prix de la carpette anglaise.
Mais ça ne nous empêche pas de continuer à nous battre parce que nous considérons qu'il y a un véritable danger. Mais il faudra que ceux qui signent, qui ratifient le protocole de Londres rendent des comptes, au moins que leur mémoire rende des comptes dans une centaine d'années.
Et on verra qui ratifie ce protocole? Qui ratifie ce protocole?
Le Parlement.
Le Parlement français?
Oui, c'est-à-dire le Parlement français.
On attend toute l'Europe, enfin pas toute l'Europe, mais enfin, il y a des pays, évidemment l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne a ratifié, l'Allemagne a ratifié, on comprend, mais d'autant plus qu'ils déposent plus de brevets que nous, mais la France n'a pas ratifié, et l'Espagne, l'Italie, etc., il y a des tas de pays qui n'ont jamais voulu signer ce protocole.
Il n'y a pas question.
Et d'où vient le coup? D'où le coup est-il parti?
De la France.
La France.
C'est la France qui
a eu cette bonne idée.
C'est certainement une pression du MEDEF.
Donc là, c'est un cas typique de ce que vous dénoncez régulièrement dans la revue de la trahison
françaises.
Des élites françaises.
Exactement.
C'est-à-dire, ce ne sont même pas les anglo-saxons qui mènent une campagne agressive.
On a le cas aussi, on a des cas comme ça en Europe.
Et quel intérêt voit le MEDEF? C'est uniquement pour faire des économies?
Oui, c'est des entreprises multinationales. Donc,
oui,
l'anglais.
Sont plus françaises, en fait, déjà.
Voilà. Il y a les économies, et puis ça intéresse beaucoup de grandes entreprises d'avoir qu'une seule langue à travers le monde. C'est bien, ça parle de l'anglais partout, ça simplifie les choses. C'est la mode en ce moment. C'est la mode,
vite.
Ça changera certainement. D'autres ont bougé, ont changé dans ce domaine. Hein. Je me rappelle la position de M. Schweitzer quand il était à la tête de Renault, qui avait imposé l'anglais au Japon pour tout le monde. Et puis au bout d'un moment, il s'est aperçu que la créativité, le dynamisme, la communication étaient complètement faussées parce que l'emploi systématique de l'anglais appauvrissait la pensée. On appauvrissait le langage, on appauvrissait la pensée. Et il est revenu à la liberté de langue nationale, c'est-à-dire que les Français parlaient français et les Japonais parlaient japonais. Et quand il y avait besoin de communiquer, ben là, effectivement, on trouvait une passerelle de traduction pour se mettre d'accord. Mais au moins, dans le travail de tous les jours, chacun travaille dans sa langue, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime le mieux.
Et est-ce que Louis Schweitzer constitue pour vous un bon avocat dans ce dossier du protocole de Londres? Non.
Non.
Ah. Non,
il n'est pas impliqué là maintenant.
Il aurait pu éventuellement
Je crois qu'il a été l'un des lauréats, justement, au début.
Au début,
il a été l'un des lauréats.
Oui, au début, oui.
C'est avant aussi. Qu'il change.
Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été lauréat
qu'il l'a fait changer d'habitude.
Ça serait une façon d'expier ses fautes.
Peut-être. Et d'ailleurs, il a lancé quelque chose d'intéressant aussi, l'Institut Renault. C'est ça qu'il s'appelle comme ça. Mais...
Pour les langues, oui.
Oui, où il forme systématiquement des cadres étrangers. Une centaine de cadres étrangers, alors ça a commencé par les Japonais, à la langue française, une formation intensive.
Donc c'est vraiment le chemin inverse, puisque lui imposait à ses conseils d'administration.
Il n'en fait pas une formation en anglais, il a dit...
Il y en a qui tout d'un coup prennent conscience du danger, mais c'est long. Hein.
Oui, oui. Et qui voit aussi peut-être l'intérêt économique des grandes entreprises françaises de se distinguer de leur rival anglo-saxonne sur ce terrain linguistique.
Oui, mais LVMH, par exemple, fait bien attention à parler français parce que c'est dans le luxe, c'est quand même. Alors, je sais qu'on a aussi des erreurs comme Dior qui met des produits.
Il est non anglais, mais.
Dior Attitude avec cette.
Oui, oui,
mais essentiellement, ils comprennent quand même que la langue du client et la langue de l'économie, c'est la langue du client.
Bien sûr, pour se vendre, il faut essayer de parler la langue du client. C'est élémentaire, c'est fondamental même.
Alors, Marcel Deschamps, Guillemette Morin-Véret, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on revienne sur le contenu de la revue ce mois-ci, si vous le voulez bien avec vous, peut-être Guillemette, que vous nous disiez voilà, de quoi, quelles sont vos thématiques, comment vous les choisissez, et que l'on prenne bien conscience que cette revue est particulièrement complète dans le domaine de l'information, ce qui touche le français, et puis de la connaissance et de l'approfondissement du sujet. Alors comment faites-vous votre choix, Guillemette ?
Alors, merci beaucoup d'abord. Mon choix, toujours trouver un éditorial de Jean Dutour. Donc, ses discours me servent à l'occasion.
On connaît son sens de l'humour.
Oui, donc ça, c'est pour entrer tout de suite. Parce que on souhaite que la revue soit joyeuse. Hein, parce qu'on ne va pas pleurer.
Pas grincheuse.
Surtout pas. Donc, c'est pour ça aussi que nous faisons appel à un dessinateur bénévole, hein, mais qui s'appelle Jean Guignard et qui illustre gentiment la revue, de manière amusante la revue. Ce sont les adhérents, en fait, qui sont les écrivains, les auteurs, si vous voulez, des articles de la revue, essentiellement. Je dirais à 90%.
Qui envoient leurs articles.
Ils envoient leurs articles. Nous avons un comité de lecture qui les retient, qui les corrige éventuellement. Et donc, les sujets, c'est la francophonie, donc le français dans le monde.
Une première partie consacrée au français dans le monde, à la politique du français.
Voilà.
Ce n'est pas du vocabulaire. Avec beaucoup d'infos, notamment dans les échos.
Alors, les brèves, on fait des brèves pour dire, le plus possible pour annoncer ce qui va arriver plutôt que de dire ce qui s'est passé, parce que sinon, ça manque, c'est trop tard, quoi. Et aussi, nous consacrons quelques pages au français, aux langues de l'Europe, pour montrer justement l'importance du plurilinguisme. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, on consacre au vocabulaire. Les lecteurs aiment beaucoup tout ce qui est vocabulaire. Les pages de vocabulaire sont toujours appréciées. On le voit même dans les journaux normaux, comme dans Ouest France ou Sud-Ouest Dimanche ou La Voix du Nord, ou Le Figaro. Tout ce qui est article consacré.
Le Figaro
consacré...
n'a pas supprimé sa petite chronique.
Non, non, c'est toujours
chronique.
Claude Duneton, qui est d'ailleurs membre de DLF aussi.
Dans
qui...
Le Figaro littéraire.
Une fois par... Oui,
oui dans le Figaro littéraire, oui, plus dans le quotidien.
C'est vrai, le quotidien a supprimé. C'est dommage.
Dommage, oui.
Elle était très lue, je crois.
Oui, les gens aimaient beaucoup ça.
Bien sûr.
Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on laisse une page à l'Académie, les mots perdus ou en péril, les mots nouveaux, donc aussi finalement de l'Académie. Après le vocabulaire, on consacre quelques pages à la grammaire. On met au centre des fiches pour les plus jeunes, disons, ou ceux qui ont... Parce que la population de Défense en française est très, très variée. Nous savons que nous avons à Toulouse un lecteur assidu qui est conducteur d'autobus. Nous avons des adhérents qui sont qui infirmiers, qui kinésithérapeutes, et puis...
Qui sénateur.
Et tous les âges.
Et puis de tous les âges et toutes les fonctions. Donc c'est quand même, ça demande pour la revue de ménager un petit peu toutes les difficultés. Ce n'est pas une revue littéraire comme la revue des Deux Mondes. C'est une revue pour faire aimer la langue française en fait. Et après ça, bon, parce que quand même nos adhérents sont très critiques, nous avons des pages consacrées à l'humour et à l'humeur.
Oui, et nous devons consacrer aussi au militantisme.
Et alors après, j'y viens Marceau, mais je tourne, attends.
Le tableau d'honneur et puis le pilori.
Et on arrive enfin, alors surtout, parce que ça, il faut le savoir, il y a énormément de livres sur la langue française qui sortent tous les trimestres. Donc on fait une présentation de ces livres. Et c'est, vous n'imaginez pas ma
le
bibliothèque.
Travail que ça
non, je crois que je vais être obligée de changer d'appartement parce que je n'ai plus la place de mettre tous
alors
ces
livres.
C'est
une question que l'on peut se poser d'ailleurs, puisque c'est vrai, on observe une profusion d'ouvrages sur cette question. Ça veut dire que ça se vend, que ça marche.
J'ai l'impression. Oui, parce que ça, en tout cas, ça n'arrête pas. Ça
donc
n'arrête pas.
C'est quand même bon signe, ou alors c'est mauvais
c'est bon
signe parce que
non,
l'éducation nationale ne remplit en plus ses fonctions.
J'interprète ça comme un bon signe.
Alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est un des sujets qui nous soucie beaucoup, c'est l'éducation, oui.
En tout cas, c'est incontestable, énormément d'ouvrages dont vous faites la critique.
Oui. Nous allons pas parler justement de notre action de concert avec les gens qui se battent pour l'éducation nationale.
Ben voilà, on soutient plusieurs, dont Laurent Laforgue, et une autre association qui s'appelle familleeducation.net, qui va organiser d'ailleurs un colloque. Ça, je pense que ça vaudrait le coup de dire.
C'est le mois de février, là.
Oui, je vais vous le dire, parce que c'est vraiment important.
Le
7 février, effectivement, à la Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, dans le 8e arrondissement, à 8h30. Et c'est un colloque toute la journée sur l'éducation. Ouais.
Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Marceau Deschamps, pour conclure.
On a oublié de parler de notre site Internet, qui est un travail remarquable également de notre ami Roland Renaud-Boué, qui est membre de l'association. C'est encore un travail de bénévole, et sur lequel les gens qui s'intéressent à la langue française ou à notre association trouveront un tas de renseignements. Je cite l'adresse, c'est langue-française.org.
Française,
puisqu'on ne peut pas utiliser les signes diacritiques sur les adresses.
langue-francaise.org. C'est peut-être un nouveau combat, là, imposer les cédilles et les accents sur l'Internet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de défense de langue française. Je rappelle Marceau Deschamps, vous êtes vice-président de DLF, donc association qui compte plus de 3000 adhérents, fondée en 58, et Guillemette Morin-Véret, secrétaire générale de la dite association et directrice de la publication de cette revue qui est très bien faite et qui s'appelle Défense de la langue française. Merci.